Alors, nous allons désigner un ou une secrétaire de séance et je propose Madame Annick Guerrero, qui est contre, qui s'abstient. Je vous fais maintenant état des procurations. Alors, j'ai reçu la procuration de Madame Patricia Roche, qui donne procuration à Annick Guerrero. Vincent Théoki donne procuration à Elvire Théoki. Sonia Collot donne procuration à moi-même. Et Jean-Paul Montagnier donne procuration à Georges Point. Alors, nous avons quelques remerciements. Tout d'abord de la part de la famille Lebrun, qui était très touchée par les marques de sympathie et d'amitié que nous leur avons témoignées lors du décès de Madame Aimée Lebrun, ainsi que de la part du lieutenant Blanc, qui a été très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion du décès de son papa, lieutenant Blanc, commandant de la brigade de gendarmerie d'Orange. Alors, en ce qui concerne le procès-verbal de la dernière séance, y a-t-il des observations ou des questions ? Non. Alors, je le mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Et donc, je commence l'ordre du jour avec en rapport numéro 1. Le débat d'orientation budgétaire. Conformément à l'article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire présente les grandes orientations budgétaires proposées pour l'année 2015, après avoir procédé à une analyse financière rétrospective. Une discussion entre élus a suivi la présentation de ces orientations. La délibération prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire. Alors, dans un premier temps, je vais donner la parole à Monsieur le directeur général des services pour une première présentation.
Bonsoir. Donc, vous avez reçu une note de synthèse dans le dossier de convocation pour ce conseil municipal. Donc je passe la partie, on va faire une lecture suivie de cette note de synthèse. Je passe la partie réglementaire pour analyser de suite les résultats de l'exercice 2014, en précisant en préambule que nous travaillons sur un compte administratif et un compte de gestion qui sont provisoires, puisque le compte de gestion du Trésor public est arrivé ce matin en mairie, et parvenu ce matin dans nos services. Donc effectivement, la note qui a été rédigée l'a été sur la base d'un compte de gestion provisoire. Donc, les résultats de clôture du budget principal se présentent donc comme suit. Un excédent de fonctionnement de 703 978,23 euros. Un déficit cumulé d'investissement de 49 226,60 euros, qui tient compte d'un excédent reporté de l'exercice 2014 qui était de 288 009 euros et 58 centimes. Ce qui nous donne une balance générale du budget excédentaire à 654 751,63 euros. Alors, dans le détail, pour la section de fonctionnement, les dépenses pour 2014 se sont montées à 4 950 538,36 euros, ce qui correspond à une évolution de 0,77% par rapport à 2013. Donc, par rapport à la masse de ces dépenses, on peut dire que les dépenses de fonctionnement ont été quasiment stabilisées en 2014. Depuis 2010, elles avaient connu une hausse de près de 13%, et donc vous avez une courbe qui illustre cette évolution. Donc on retiendra pour le détail une diminution de 5,74% des charges à caractère général, le chapitre 11, une augmentation de 6,86% des charges de personnel, le chapitre 12, notamment dû à l'impact de la réforme des rythmes scolaires dans sa préparation et dans son application, à la création d'un poste de directeur de cabinet et au recrutement d'un contractuel CDD au service GRH pour pallier à l'absence pour congé maladie de la responsable de service. Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 5 654 516 euros. Elles connaissent une légère hausse de 0,69%. Et ce, malgré la perte déjà importante pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement, puisque nous avons perdu en 2014 par rapport à 2013 41 327 euros. Donc la stabilité des recettes est due à l'optimisation de celles-ci, et notamment des subventions, ainsi qu'à l'augmentation de 1,92% de la recette principale, qui est la fiscalité directe. Et la fiscalité directe dont les taux ont été maintenus en 2014. La taxe additionnelle sur les droits de mutation a également permis de dégager 12 936 euros de plus qu'en 2013, soit une augmentation de 10%. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. La commune dégage donc, comme nous l'avons vu, un excédent de fonctionnement de 703 978 euros, c'est-à-dire plus 3% par rapport à 2013, ce qui est encourageant vu le contexte actuel budgétaire et financier des communes. Cet excédent donc constitue l'autofinancement ou l'épargne brute du budget de 2015, affecté à la section d'investissement en recettes, avec couverture prioritaire, comme la loi l'y oblige, de l'annuité d'emprunt qui s'élève à 259 282 euros pour cette année. La section d'investissement maintenant pour l'exercice 2014. Les dépenses, 1 819 501 euros. Les recettes, 1 482 265 euros. Donc, on reporte un excédent cumulé de 288 009 euros, ce qui nous donne un déficit d'investissement cette année de 49 226 euros. Alors, le résultat définitif, lui, si on applique les restes à réaliser, donc 143 484 euros en dépenses et 221 586 euros en recettes, ça nous donne donc un résultat définitif d'investissement excédentaire de 28 875 euros. Pour rappel, il était déficitaire de 243 745 euros en 2013. Donc voilà pour le bilan 2014, dans l'attente du compte administratif qui vous sera présenté le 30 mars lors de la session du conseil municipal, qui verra donc la présentation du compte administratif et du budget primitif. Les orientations 2015 maintenant. Alors en section de fonctionnement, nous le rappelons, pour la deuxième année consécutive, les dotations de l'État aux collectivités territoriales vont baisser. En 2015, d'après la méthode de calcul de l'Association des maires de France, la DGF sera de 280 482 euros, ce qui fait une perte de 101 912 euros par rapport à 2014, une perte donc de 26,6%, qui vient s'additionner aux 41 327 euros déjà retirés en 2014. Donc si on fait un peu de prospective sur les exercices suivants, en 2017, la commune verra sa dotation globale de fonctionnement diminuer de 347 062 euros sur une DGF qui était en 2013 de 415 879 euros. On arrive donc en 2017 avec une dotation globale de fonctionnement qui sera de 68 817 euros. Donc une baisse très conséquente de la dotation globale de fonctionnement. Vous avez en page 4 la courbe qui est sans appel de cette évolution de la DGF. Donc parallèlement, les attributions et subventions qui proviennent des autres collectivités seront, par la force des choses, aussi plus difficiles à obtenir, puisque les autres collectivités, que ce soit les conseils généraux ou les conseils régionaux, subissent les mêmes, même si ce n'est pas les mêmes proportions, mais les mêmes baisses de dotation de la part de l'État. Donc elles vont être contraintes également, elles, de serrer aussi leur budget de fonctionnement. Donc la chasse aux subventions sera rendue d'autant plus difficile. Donc malgré ça, nous mettons en place un programme ambition de recherche de subventions à tous les niveaux, dans tous les projets que nous allons mettre en œuvre dans les exercices qui viennent, 2015 en premier lieu. Les efforts fournis en 2014 en fonctionnement donc devront donc se poursuivre en 2015, avec comme objectif la diminution des dépenses de fonctionnement sur les exercices à venir. Les chefs de service sont mobilisés, les agents également, pour la mise en œuvre de ces économies. Chaque agent a été sensibilisé, chaque chef de service a été sensibilisé. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Concernant les dépenses de fonctionnement, on va les voir par chapitre, hein, les principaux chapitres. Les charges à caractère général du chapitre 11, donc c'est la maîtrise de ces dépenses, se concentrera sur ce chapitre. Donc ça nécessite une politique rigoureuse de réduction des consommations énergétiques, la négociation mutualisée de nouveaux tarifs en matière de fourniture d'électricité dans le cadre du groupement de commandes qui était établi avec les communes de Vaison, Piolenc et Bolène. Les tarifs du gaz, eux, ont déjà été négociés par la commune avec une économie prévisionnelle sur 3 ans de presque de 4500 euros. Et encore, c'est une estimation à minima. La poursuite des travaux d'amélioration de performance énergétique dans nos bâtiments pour réduire les coûts afférents. Les dépenses de téléphonie font d'ores et déjà l'objet d'une analyse et d'un audit pour les faire diminuer. Hein, de mémoire, en 2014, elles s'élèvent à 42 000 euros, ce qui est beaucoup. La commande publique est soumise maintenant systématiquement, quel que soit le seuil, à la mise en concurrence, avec une règle pour les chefs de service qui est de fournir 3 devis, ce qui nous permet de négocier et de baisser effectivement le coût. L'ensemble des contrats de maintenance va faire l'objet et d'entretien va faire l'objet d'une analyse et d'une remise à plat afin de dégager des économies dans ce domaine, parce que c'est un domaine qui est fort coûteux pour la collectivité. Et d'autres économies seront recherchées à tous les niveaux de la collectivité. Hein. Le personnel communal, encore une fois, y est sensibilisé, est associé à la démarche. Le personnel communal, justement, chapitre 12. Les charges personnelles donc pour 2014 s'élèvent à 2 821 568 euros. Donc ces dépenses sont moins importantes que ce qui avait été budgété au budget primitif 2014 et sur la décision modificative, puisqu'on a un reste de 179 000 euros sur ce chapitre. Donc il faut tenir compte, là, dans les charges de personnel, de l'effet GVT, le glissement vieillesse technicité. Tenir compte pour 2014, en février, d'une revalorisation, d'un reclassement sur les catégories B et C. Et pour 2015, dès janvier, nous avons déjà eu une revalorisation de 5 points de la dis majorée des catégories C, ce qui fait en gros par agent une augmentation nette de 5 à 12 euros. Donc tenir compte également des avancements d'échelons et de grades, mais ça, il n'y a rien de particulier. Les astreintes et les heures supplémentaires qui s'y rapportent, et l'augmentation substantielle des dépenses d'assurance et de charges. Pour 2015, il convient également de tenir compte du recrutement d'un quatrième agent de police municipale, ainsi que d'un chef cuisinier pour la cuisine centrale qui va vraisemblablement passer en régie au 1er juillet. En 2015, la municipalité donc continuera, comme en 2014, de faire preuve de rigueur dans le domaine des dépenses de fonctionnement sur le chapitre personnel, qui représente plus de la moitié des dépenses de fonctionnement, puisqu'on est à 57,30% des charges de fonctionnement, soit 605 euros par habitant, par camarétois. Il conviendra aussi de garder la plus grande attention lors des remplacements pour maladie, maternité, l'optimisation de la polyvalence dans les services, la gestion rigoureuse des heures supplémentaires, gestion stricte des plannings, récupération plutôt que rémunération, et également une politique de prévention de l'absentéisme. Un audit sur l'optimisation des dépenses de personnel en matière de charges et de cotisations patronales a été commandé, puisqu'on a dans l'audit interne qui a été réalisé, plusieurs erreurs ont été pointées. Et donc il y a sans doute là des économies à faire dans le chapitre dépenses de personnel sans pourtant que ça impacte la rémunération des agents. Et on tiendra compte aussi sur ce chapitre des départs à la retraite de l'année 2014, un agent d'entretien et un agent d'animation, Vincent Dibonneau. On tiendra compte également de la mutualisation du service urbanisme avec au niveau de l'intercommunalité, qui fait qu'un agent va être mis à disposition de l'intercommunalité à hauteur de 70% de son temps de travail, et donc ça fera une charge de personnel en moins pour la commune. Les charges de gestion courante, chapitre 65. Donc, elles étaient en constante augmentation jusqu'alors, mais elles ont été stabilisées à l'image de la globalité des dépenses de fonctionnement. Elles s'élèvent donc pour 2014 à 476 612 euros. Donc, ce mouvement devrait être poursuivi en 2015. Ces charges comprennent les contributions obligatoires de la commune aux syndicats intercommunaux, la participation communale au SDIS, qui est de 129 468 euros pour 2015 comme en 2014, la subvention de fonctionnement versée par la commune au CCAS, qui sera de 70 300 euros pour 2015, le forfait scolaire alloué à l'école Saint-Andéol, qui sera de 49 571 euros pour 2015, les subventions aux associations, qui se maintiendront aux alentours de 126 000 euros pour cette année. Et également les contributions divers syndicats, ERAO, syndicats mixtes d'électrification et d'aménagement de l'aigle. La contribution au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, d'après projection qui demande à être vérifiée, augmenterait de façon quand même importante, puisqu'on passerait de 34 845 euros à 49 440 euros en 2015. Ce qui ferait une augmentation de 42%, ce qui correspond à peu près à ce qu'au niveau national on nous disait, c'est qu'une augmentation de 38% était prévisible. Les dépenses prévisibles liées aux intérêts d'emprunt donc seront de 57 980 euros. Et les dotations aux amortissements, donc une opération d'ordre qui trouve sa contrepartie en recettes d'investissement aux alentours de 208 000 euros. Donc l'objectif qui a été fixé par la municipalité pour 2015, c'est de confirmer la stabilisation des dépenses réelles de fonctionnement autour de 4 900 000 euros, le niveau auquel elles étaient en 2014. Les recettes de fonctionnement, donc l'essentiel des ressources en cette matière, c'est le produit fiscal, chapitre 73. Donc on n'a pas encore la revalorisation des bases par l'État. Les taux communaux resteront identiques en 2015, 8,30 pour la taxe d'habitation, 24,80 pour le foncier bâti et 57,11 pour le foncier non bâti. Donc on est dans la moyenne de la strate et dans la moyenne nationale. Donc l'augmentation du produit fiscal ne viendra que d'un effet base. Alors, on n'a pas les taux, on sait que le projet de loi de finances prévoit que elles augmenteraient, que les bases augmenteraient de 0,9%, ce qui nous permet d'estimer le produit fiscal pour 2015 à environ 1 634 000 euros. Ce qui ferait grosso modo 10 000 euros en plus par rapport à 2014. Donc les autres recettes de fonctionnement, bon, on a parlé des dotations, de la dotation de l'État, de la DGF qui va baisser, de la dotation de solidarité rurale péréquation à laquelle Camaret a droit. Donc le niveau de la DGF, on l'a dit tout à l'heure, serait à 280 483 euros. L'attribution de compensation qui est versée à la commune par la CSAOP en lieu et place de l'extac professionnel sera de 2 154 767 euros, diminué de 37 389 euros. Mais en fait, c'est une opération neutre, puisque comme on a transféré la totalité de la compétence nettoyage voirie, on a transféré par là même un agent, et donc la dotation, l'attribution de compensation baisse, mais les dépenses de personnel baissent également, puisqu'on a un agent qui est parti à la CCAOP. Les autres recettes de fonctionnement, donc le produit des loyers, les services en régie, les occupations, les produits des occupations des domaines publics, les participations de nos cofinanceurs CAF et MSA, notamment dans le secteur crèche et enfance jeunesse, et la taxe additionnelle sur les droits de mutation, dont on espère qu'elle nous réservera la même surprise en 2015 qu'en 2014. Pour la section prospective 2015, donc pour la section d'investissement, les dépenses d'investissement Donc l'année 2014 a été essentiellement consacrée à des travaux liés à la performance énergétique des bâtiments communaux, tels de ville, espace René Roussière, etc. À des travaux de voirie également aussi non négligeables, chemin de la Dame, avenue Pasteur. Et pour 2015, plusieurs projets importants sont programmés, donc avec de gros investissements. La phase finale de l'aménagement du tour de ville, donc repris par le bureau d'études Caprime avec en collaboration étroite avec l'architecte des bâtiments de France. Le coût total estimé, toutes taxes comprises, TTC, c'est 613 000 euros. Pour 400 000, avec 400 000 euros sur l'exercice 2015, puisque sur l'exercice 2015, où la municipalité a décidé d'engager la tranche 1, qui comprendra le cours du Midi, ainsi que le carrefour, chemin battu, Marie Curie et cours du Midi. Il est également prévu l'aménagement dans l'ancienne crèche, actuelle maison des associations, une extension au profit de la maternelle sous les Yadeaux pour régler le problème de la 7e classe qui est actuellement accueillie dans un Algeco. C'est agréable ni pour les enseignants, ni pour les enfants, ni pour nos agents ATSEM. Donc là, nous avons lancé la consultation pour un AMO, maîtrise d'ouvrage, assistant maîtrise d'ouvrage, un architecte, qui sera vraisemblablement aux alentours de 15 000 euros. Et on estime, mais c'est encore à préciser, que cette dépense avoisinerait les 80 000 euros. L'aménagement de l'ancien centre médico-social, donc on a un logement d'accueil d'urgence, comme ça a été évoqué lors d'un précédent conseil municipal, et de deux appartements locatifs pour un montant estimé de 260 000 euros avec des frais d'études et de contrôle du chantier d'environ 23 000 euros. La construction des vestiaires de l'ASC, du foot, donc pour le foot et le foot animation. Donc ça, on en a déjà parlé lors de précédents conseils municipaux. Montant prévu total de 280 000 euros, subvention comprise, la part de la commune étant, elle, de 105 000 euros, comme voté en 2014. La réfection du terrain de motoball à hauteur de 30 000 euros. Les dernières tranches de travaux de voirie communale, notamment chemin de la Dame, en association avec la CCAOP pour la partie assainissement, c'est estimé à 43 000 euros. Et pour l'avenue Pasteur, c'est estimé à 75 000 euros. C'est notamment l'amélioration du chemin piétonnier et des trottoirs. La numérotation métrique de la voirie qui est en cours mais qui est impactée sur le budget 2015, 5040 euros. Le développement du système de vidéoprotection, donc les trois nouvelles caméras, ainsi qu'une somme prévisionnelle de renouvellement du matériel ancien, 6500 euros. Il est également prévu au chapitre investissement la restauration d'œuvres d'art, des tableaux de l'église paroissiale, ainsi que la poursuite de la campagne de restauration des anciens registres paroissiaux. Donc on tient compte également de l'annuité de la dette en capital qui sera d'environ 201 000 euros pour 2015. Ce qui fait que nous arrivons à un total prévisionnel de dépenses d'investissement pour le budget 2015 de 1 600 000 euros. Donc il faut savoir qu'un niveau important de subventions qui sont donc des recettes d'investissement, est en cours d'instruction. Donc toutes les notifications nous arriveront dans le courant de l'année 2015, ce qui fera que ces dépenses d'investissement qui sont estimées à 1,6 million au budget primitif devront très certainement augmenter et ça sera acté par la décision modificative qui interviendra vraisemblablement au mois de septembre. Les recettes d'investissement, justement, elles proviennent donc des ressources propres de la commune et notamment, on l'a vu tout à l'heure, de l'affectation du résultat provenant de la section de fonctionnement, soit 703 978 euros. C'est ce qui est le résultat des économies et des dépenses des économies de fonctionnement qui ont été faites en 2014. La taxe d'aménagement, cette taxe qui est payée à la délivrance des permis de construire, qui est estimée à 40 000 euros pour 2015. Des subventions sollicitées, donc la contractualisation avec le conseil général, la région PACA au titre du programme d'aménagement solidaire, la DETR de l'État et les dotations parlementaires. Donc l'avenant en 2014 de la contractualisation avec le Conseil général a été notifié. Donc nous aurons 74 800 euros qui seront affectés aux travaux du tour de ville et également notifié 40 000 euros de dotations parlementaires qui iront à la construction des nouveaux vestiaires de l'ASC. Donc les récentes négociations, là c'est entre en italique dans la note puisque c'est acté au niveau du bureau de la CCAOP, mais on n'a pas encore lu les notifications officielles, donc on ne les inscrira pas encore aux recettes, mais on sait qu'on a une très forte chance de les avoir. Donc c'est la répartition de l'enveloppe du programme d'action solidaire qui s'élèverait à 147 141 euros pour 2015, qui serait ventilé à hauteur de 102 180 euros pour les travaux du tour de ville et 45 000 euros pour la rénovation de l'enceinte du centre médico-social, de l'ancien centre médico-social. Ça fait environ, c'est 15 000 euros par appartement, 3 appartements, donc 45 000 euros de subvention. La recette due au titre du fonds de compensation de la TVA, qui sera de 671 euros pour 2015, et diverses opérations d'ordre entre sections qui sont estimées à plus de 400 000 euros et qui viennent donc en recette d'investissement. Donc l'exercice 2015 va donc connaître des investissements importants, réalisés sans augmentation des taux d'imposition comme on l'a vu, ni recours à l'emprunt. Et c'est essentiellement dû à l'autofinancement dégagé par les économies de fonctionnement en 2014. La politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement et d'optimisation des recettes de fonctionnement s'intensifiera en 2015 pour permettre d'investir dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Donc nous allons passer maintenant à la dernière partie de cette synthèse. Par l'analyse de la dette. Donc, la situation de l'endettement pour Camaret est bonne. On a une dette structurée, une dette avec des taux d'intérêt qui sont intéressants. Il n'y a pas d'emprunt toxique, même si on a trois intérêts à taux variable, mais ce sont des taux qui sont indexés sur des éléments qui ne sont pas du tout inquiétants. L'endettement, alors c'est un chiffre du 31 décembre 2013, puisqu'on n'en a pas de plus récent. Par habitant est de 421 euros par habitant. La moyenne de la strate étant de 814 euros par habitant, donc on est tout à fait bien placé. L'encours moyen de la dette en 2015, l'encours total sera de 2 026 euros. Le capital périllé sur la période, on l'a vu tout à l'heure, 201 301 euros. Les intérêts, 57 000, presque 58 000 euros, avec un taux d'intérêt moyen, moyenne des taux fixes et des taux variables, de 2,96 euros. On a donc en taux variable 18,70% d'emprunts de la commune qui sont à taux variable, mais encore une fois, ce sont des taux qui ne sont pas inquiétants pour l'avenir. Vous avez donc le tableau des taux variables et des taux fixes. Et pour conclure sur le taux, sur l'endettement de la commune, le ratio de désendettement de la commune qui se calcule par la capacité, l'encours de la dette sur la capacité d'autofinancement de la commune, donc ce ratio est de 2,87 ans, c'est-à-dire qu'on peut rembourser la dette avec notre autofinancement en 2,87 ans. Pour comparer, la moyenne de la strate est de 4,6 ans. Donc on a une situation au niveau de la dette qui est tout à fait correcte et qui est bonne. Voilà. Je redonne la parole à monsieur le maire.
Bien, avant de passer la parole à ceux qui le souhaitent, je voudrais faire quelques petits commentaires. Tout d'abord, en ce qui concerne l'année 2014, Donc je souligne que c'est une année au cours de laquelle nous avons procédé à une certaine pause sur les investissements afin notamment de reconstituer une part de notre capacité d'autofinancement. Mais cependant, nous avons quand même continué à investir, notamment dans les écoles. Je souligne également qu'en 8 mois, nous avons réussi véritablement à stabiliser les dépenses de fonctionnement, alors que ces dernières étaient en constante augmentation ces dernières années. En revanche, en ce qui concerne l'année 2015, cette année va être une année d'investissement important, avec notamment les travaux du tour de ville qui vont reprendre, avec aussi l'aménagement d'une classe dans les locaux de l'ancienne crèche, l'aménagement d'un logement d'accueil d'urgence et de 2 logements conventionnés. Mais, et je le souligne encore, le tout sans augmenter les impôts et sans recourir à l'emprunt. Avec une poursuite des économies dans le budget de fonctionnement, en particulier en ce qui concerne les dépenses énergétiques. Le tout malgré des contraintes de plus en plus pesantes que l'État impose aux communes et à Camaret également. Je souligne et je m'insurge une nouvelle fois contre la baisse des dotations de l'État, puisque en 2015, donc, nous allons perdre 102 000 euros. Je m'insurge également sur l'augmentation des dépenses qui vont peser sur Camaret, dépenses liées à la solidarité intercommunale. Et je m'insurge contre la création de nouvelles charges que fait peser l'État sur les communes, en particulier avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, dont nous aurons un bilan plus précis au moment du compte administratif. Voilà, c'est quelques points sur lesquels je voulais revenir. L'essentiel étant que nous n'allons pas augmenter les impôts, nous allons maintenir les taux, nous n'allons pas recourir à l'emprunt et nous allons continuer à économiser sur la section d'investissement de fonctionnement tout en poursuivant et tout en reprenant une politique d'investissement ambitieuse. Voilà, je laisse la parole à ceux qui le souhaiteraient. Madame Thibault.
On s'excuse, on va être amené à poser des questions, j'espère.
Que... Bien entendu.
Non, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop.
Ah, qui n'aime pas trop?
Ah, bah, écoutez, bon, ça va mieux. Alors, juste, on passera le micro si vous voulez bien. Juste une question de forme. Dès la première page, vous faites référence à l'article 25-31 du Code général des collectivités territoriales. J'ai regardé et cette disposition concerne la région Île-de-France. Alors, est-ce que c'est un copier-coller qui est malheureux parce que ça concerne le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France? A priori, rien à faire sur cette... dans ce débat d'orientation budgétaire, sauf si vous me dites le contraire, quoi.
Vous voulez que je réponde tout de suite?
Non.
Cette question d'une importance capitale, ou là, vous continuez, comme vous voulez.
Ok. Ensuite, je passerai donc à la... Tu veux continuer sur... Allez.
Bien, vous insistez sur 2 points, monsieur le maire. Premièrement, sur la stabilisation du budget de fonctionnement, et vous insistez aussi sur la baisse de la DGF. Et à ce titre, vous nous avez fait deux beaux graphiques, les deux seuls d'ailleurs de ce document. Et force est de constater qu'ils sont tout à fait discutables. Alors, premièrement, le graphique que vous montrez sur les dépenses de fonctionnement ont une mauvaise représentation. Donc volontairement, vous avez fait commencer l'origine à 4, alors que quand on représente avec des lignes, il faut commencer l'origine à 0. Donc on a une impression d'une augmentation exponentielle du budget de fonctionnement sur les dernières années, alors que si on se fie aux règles de la statistique, on aurait cette représentation-là, donc avec une courbe beaucoup moins prononcée, et tout de même une augmentation entre 2013 et 2014, ce qui ne figure pas sur votre graphique. Donc votre graphique est faux. Deuxièmement, sur l'autre graphique, donc là on voit une courbe exponentielle mais qui baisse, puisque vous nous alertez et vous nous alarmez sur la baisse annoncée de la dotation de fonctionnement. Alors, je rappelle que c'est que celle la DGF forfaitaire, puisque vous n'avez pas parlé de la DGF de péréquation, qui, elle, devrait se maintenir, voire augmenter. Donc, peut-être que vous avez des chiffres à nous annoncer. Et donc, pour inquiéter les Camaretois et les élus que nous sommes, dans le premier cas, vous utilisez des unités qui sont des millions, donc pour le budget de fonctionnement. Et dans le deuxième cas, puisque vous ne faites aucune précision, vous utilisez des centaines de milliers. Donc, on a une impression qu'il y a une perte catastrophique. Or, le budget de la dotation globale de fonctionnement représente moins de 5% du budget total. Donc, tout ça pour dire que vous avez à votre disposition des marges de manœuvre qui restent encore très importantes et il ne faudrait pas trouver de mauvaises justifications pour ne pas apporter les services souhaités aux Camaretois.
Madame Thibault, à moins que je réponde tout de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, ouais. Pas de problème. Alors, en ce qui concerne la remarque de Monsieur Mengui, qui d'habitude me fait des remarques un petit peu plus, je dirais, intéressantes. Bon, alors, je suis pas allé vérifier moi-même si l'article du Code général des collectivités territoriales est le bon, mais de toute façon, ce qui est important, vous en conviendrez, c'est que nous visions le dit Code général des collectivités territoriales et que nous organisons ce débat d'orientation budgétaire conformément au Code général des collectivités territoriales. Alors, et s'il y a eu une erreur dans le choix de l'article, nous la corrigerons et je vous remercie pour cette remarque si elle est fondée. En ce qui concerne la remarque de M. Arcuzé. Alors, M. Arcuzé, lui, s'étonne de ce que l'on ne parte pas dans le graphique qui concerne les dépenses de fonctionnement de zéro. Effectivement, on a voulu quand même faire quelque chose d'à peu près lisible et visible. On n'est pas parti de zéro, on est parti de 4. 4 qui correspond, je pense que vous l'avez compris, à la somme des dépenses de fonctionnement qui s'élève donc à 4 950 000. Donc on est parti donc de cette somme de 4 millions et on est parti de l'année 2010 pour bien souligner qu'effectivement 2010, 2011, 2012, 2013, il y avait eu une augmentation sensible des dépenses de fonctionnement et que cette augmentation a été stoppée. Alors vous dites oui, mais vous n'avez pas représenté la légère hausse de 0,69%. Tout à l'heure, vous parliez de 5%, mais là, la légère hausse ne représente que 0,69%. Alors, je reconnais que sur un graphique, c'est pas forcément évident à dessiner. Alors, en ce qui concerne ce que vous m'avez dit aussi, le niveau de la baisse des dotations de l'État, il ne s'agit pas d'inquiéter les élus, mais, chers collègues, il faut peut-être aussi assumer ce que font vos amis politiques au gouvernement. Sous les ordres d'ailleurs de Bruxelles qui demande à ce que la France rentre dans un véritable carcan budgétaire et donc l'État n'a rien trouvé, le gouvernement socialiste n'a rien trouvé de mieux que de faire peser la charge des économies sur les communes en réduisant les dotations de l'État qu'elle lui accorde. Et je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. 5% de baisse, ce n'est pas anodin. Parce que c'est 5% peut-être sur un exercice, mais ensuite, il y a les exercices qui suivent. Et on va vraisemblablement aboutir à une quasi-disparition de la dotation de l'État, de la dotation globale de fonctionnement. Ce qui est tout à fait ahurissant, surtout que parallèlement, bien entendu, toujours pour faire des économies et toujours pour entrer dans le cadre bruxellois, l'État rajoute chaque année des charges supplémentaires aux collectivités et en particulier aux communes. Voilà, je pense que j'ai déjà répondu aux premières interventions. Monsieur Mengui.
Pour deux points. Oui. Je reviens un peu sur ce que vous venez de dire sur la baisse des dotations. Et vous n'avez pas échappé, hein, vous n'êtes pas un poulet de l'année, en tant que vous regardez ces choses-là de près, que en matière de dotation de fonctionnement, ça s'est accentué. Mais quand on regarde un peu les courbes, le gel des dépenses, elles datent de 2010-2011. Si vous regardez, écoutez, il y a des rapports sénatoriaux là-dessus qui le précisent. Ensuite, quelle qu'a été, je dirais, la couleur politique de la, comment dirais-je, des représentants de l'État, je suis persuadé que ces baisses auraient été effectuées d'une façon comme d'une autre. D'une part, ça j'en suis convaincu. Et puis quand même, vous qui nous dites toujours qu'il faut faire des économies, je m'étonne que les économies, quand on demande aux particuliers de les faire, c'est normal. Les collectivités y participent également. Bon, alors après, le niveau, effectivement, c'est peut-être là où c'est un peu plus compliqué. En plus, juste une petite chose, parce que vous vous êtes appuyé, j'ai regardé sur un document de l'AMF. Ce document, c'est quelque chose de linéaire, c'est mathématique. Tout à l'heure, vous avez affirmé qu'on verra la DGF baisser. Vous l'avez affirmé, mais moi, je pense que cette baisse de la DGF, elle ne sera pas aussi significative. Pour preuve, aujourd'hui, il y avait une réunion avec l'Association des maires de France et le Premier ministre, et je pense qu'il y aura certainement une revoyure sur ces questions-là. Donc, on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'en 2017, il y aura donc une somme de 68 000 euros en matière de DGF. Et puis vous avez signalé également que la compensation, elle se fait aussi par l'effet base sur les recettes de fonctionnement. Donc il y a aussi un rééquilibrage. Alors pas à la même hauteur, je vous l'accorde.
Et puis les effets base, c'est complètement indépendant de la politique de l'État et de la politique de la commune.
C'est corrélé, puisque le calcul est fait en particulier sur les recettes réelles de fonctionnement. Voilà. Je peux continuer ou...
Non, je vous réponds que sur ce point-là, donc c'était pour vous indiquer que la dotation globale de fonctionnement entre 2012 pour Camaret se montait à 407 000 euros et que en 2013 pour Camaret elle s'était élevée à 416 000 euros. Donc elle n'avait pas baissé contrairement à ce que vous dites, elle avait augmenté. C'est tout récemment que l'État a décidé de carrément, progressivement, supprimer cette dotation. Madame Thibault.
Oui. Je vais simplement... Oui, je voulais... on va passer ce chapitre. Je voulais venir sur le personnel communal. Donc je note quand même une augmentation de plus 7% sur le chapitre 012. Hein. Donc ça, c'est à noter quand même quand vous dites que vous maîtrisez, tout en sachant que 7% d'augmentation due à l'embauche donc d'un directeur de cabinet et d'un chargé de la communication sur une charge de 9 mois. Hein. Ce n'est pas une année complète. Donc on attend pour 2015 les montants donc, de dépenses en termes de personnel. Je laisserai intervenir après Jean-François là-dessus. Moi, je vais simplement voir, en outre, il convient pour 2015 de tenir compte donc de la revalorisation, ce qui est tout à fait normal, des avancements d'échelon, et vous parlez des astreintes et des heures supplémentaires y afférents. Donc là, nous avons délibéré il y a 15 jours sur la mise en place des astreintes pour des agents, et vous aviez dit que ça ne coûterait rien à la commune, puis tout à coup donc on voit que c'est payant.
Donc, non, mais il n'y a pas de lien, excuse-moi voilà. De vous interrompre, hein, il n'y a pas de lien avec la mise en place des astreintes à laquelle nous avons procédé lors de la dernière séance. Là, il s'agit simplement, je passe la parole à monsieur le DGS.
Oui, donc le précédent conseil municipal a voté la mise en place d'une astreinte au niveau des services techniques. C'est pas la seule astreinte qui existe dans la collectivité, puisque nous avons la police municipale fonctionne avec des astreintes. Nous avons donc les services techniques qui vont fonctionner avec des astreintes. L'astreinte elle-même ne coûtera rien au budget de la commune, mais si elle est mise en œuvre, les heures que les agents vont réaliser à cette occasion seront bien entendu rémunérées. Donc c'est pour ça que les astreintes et les heures supplémentaires y afférents. Mais il y a quand même des astreintes qui sont rémunérées sur la commune, notamment celle de la police municipale.
Exactement. On continue. Alors, je réponds à Madame Thibault, puis qui a parlé des dépenses de personnel, avec, à mon avis, une grosse approximation, puisque vous avez lié l'augmentation des dépenses de personnel à la seule embauche d'un directeur de cabinet, ce qui n'est pas exact.
Je vous ai parlé du chargé de communication.
et ou des charges de communication, mais de toute façon, c'est la même remarque qui va s'appliquer. En fait, l'augmentation des dépenses de personnel s'applique, s'explique certes par ces deux postes, mais aussi par ce qui est automatique, le GVT, dont on a parlé tout à l'heure, et puis aussi par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, puisqu'il nous a fallu embaucher un certain nombre d'animateurs et d'animatrices. Oui, mais... Et cette réforme, comme vous le savez, nous ne l'avons pas souhaitée.
Oui, mais la mise en place des réformes des rythmes scolaires, c'était en septembre. Donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois.
Ah ben oui, mais il y a quand même... On est dans le cadre d'un document prospectif, donc on va voir ça sur... C'est toute l'année 2015 qui est en cause,
non,
en fait.
Non, mais après je laisse la parole parce que M. Mangui va vous expliquer.
Je vais m'expliquer, je vais poser une question. Sur le chapitre 012, vous avez une présentation sur les charges de personnel, moi, qui m'a un peu surpris. Vous dites, et à mon avis c'est pas exact, les charges de personnel pour 2014 s'élèvent donc à 2 821 568 €. Cependant, ces dépenses sont moins importantes que ce qu'elles avaient été budgétées, puisqu'il reste. En fait, il ne reste rien. C'est inexact de te dire qu'en matière de dépenses de fonctionnement, il reste quelque chose. Vous avez comparé, et vous l'avez dit d'ailleurs à l'occasion de vos voeux en janvier, devant les Camards et toi, que vous aviez économisé 179 381,43 €. C'est pas exact. Vous comparez le budget primitif et ce qui a été réalisé. C'est pas comme ça. Budget prévisionnel, pardon, et budget réel, enfin compte administratif. C'est en fait 2013-2014, c'est une augmentation de l'ordre de 121 573 € des dépenses de fonctionnement. Et c'est pas une économie de 179 000 €. Je trouve que présenter les choses de cette façon-là et le dire aux camarades, toi, ça n'est pas la réalité. Pour mémoire, entre 2012 et 2013, puisque vous nous avez toujours expliqué qu'il y avait beaucoup de dépenses de fonctionnement, ces dépenses, elles s'élevaient à 59 447 €. J'ai regardé. Donc voilà, donc...
De quelles dépenses parlez-vous, à 59 000 et quelques...
Non, mais là, vous ne l'avez pas. Si vous regardez un peu l'historique des dépenses de fonctionnement, quand on fait le delta 2012-2013, c'est des documents que vous devez avoir, et que, enfin, en tout cas, nous, on a conservé, on avait effectivement augmenté... Enfin, les dépenses avaient augmenté de 60 000 euros. Aujourd'hui, pour les raisons que vous avez évoquées, on est à plus 121 573 euros sur la base de ce que vous avez indiqué. Et effectivement, au compte administratif, on aura encore un peu plus de précision. Donc voilà, moi, sur... après, vous avez justifié comme vous l'entendez. Moi, je pense qu'en 2015, on va être sur des tendances, je pense, qui ne vont pas aller à la baisse. Parce que les emplois de chargés de com, les emplois de les directeurs de cabinet, ils n'étaient pas sur une année pleine. Un emploi de chef cuisinier en plus et de policier municipal, ça sera plein pot sur 2015. Je pense qu'on va, sur ce chapitre-là, il y aura certainement une augmentation significative.
Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que en ce qui concerne les dépenses liées à la communication et au cabinet, en réalité, le surcoût par rapport à ce qui existait sous votre mandature, sous la précédente mandature, puisqu'en fait la communication a simplement changé de titulaire. Ce n'est pas une charge que nous avons rajoutée, c'est un poste qui existait déjà. Bon, donc en fait les dépenses liées à la communication et au cabinet, en fait, sont de 50 000 euros. De plus. Donc par rapport au reste, ce n'est pas grand-chose. Et quand vous dites que, de toute façon, les dépenses de personnel vont augmenter régulièrement, alors là, c'est là que je vous dis non. Nous allons avoir une gestion, mais sur plusieurs années, de ces dépenses communales, en matière de personnel. Et il faudra faire le bilan à la fin pour voir si nous avons réussi à tenir ce budget et à effectivement faire baisser le niveau des dépenses en matière de personnel communal. Il va nous falloir du temps pour y arriver, mais nous comptons bien y arriver.
Je parlais de 2014 et de 2015, hein, bien entendu.
Monsieur, Madame Chomel.
Voilà, j'aurais une question toujours dans la partie personnel communal. Il est marqué, il conviendra de garder la plus grande attention lors des remplacements pour maladie ou maternité. Donc, je voulais vous demander de quel service parlez-vous parce que je vais quand même pas, je vais pas vous apprendre que dans la plupart des services jeunesse, vous êtes soumis à un taux d'encadrement bien défini par les partenaires qui sont cofinanceurs. Donc, voilà.
Alors, je ne pensais pas au service jeunesse, mais que je ne voudrais pas non plus dans le conseil municipal citer de nom, mais je peux vous indiquer qu'il y a dans notre personnel actuel des personnes qui représentent d'ailleurs un traitement relativement important et qui sont en longue maladie. Oui, ça, oui, voilà, c'est à ce cas-là que je vous ai allusé.
On dirait que c'est presque suspicieux sur les maladies ou maternité.
Nous sommes dans un débat d'orientation, donc là nous émettons essentiellement des principes. Dans les détails, on retrouvera notre politique de manière plus précise dans le budget primitif.
On peut continuer sur les dépenses.
Mais je vous en prie, nous sommes là pour ça.
Charge à caractère général. Alors, moi je voudrais revenir sur la maîtrise des dépenses. C'est vrai que c'est un peu mon dada, ça. Des dépenses de réduction des consommations énergétiques. On peut que souscrire. Hein. Sur le principe, on peut que souscrire. Parce que c'est pas facile à faire. Non, mais vous rigolez, M. Aurillac, mais... vous verrez. On vous demande ni de pleurer, ni de... On vous demande ni de rigoler, ni de pleurer. Donc, en fait, vous voyez, en plus, je vais aller dans votre sens. Vous me faites un procès d'intention. Vous voyez, c'est terrible, hein, quand même. Donc, voilà. Donc, sur le... oui. La réduction des consommations énergétiques. Bon, c'est bien hein, de faire des déclarations d'intention, des déclarations de principe. Mais par exemple, je regardais dans les dépenses d'investissement, là, j'ai rien vu cette année en termes d'investissement sur ce registre-là. Alors vous.
Même réponse pour Madame Chomel. Nous sommes dans l'énonciation dans le cadre d'un débat d'orientation. Donc on énonce effectivement des principes.
Non, mais je vous le dis pour enrichir le débat justement. Et il faut aussi investir. Vous avez largement communiqué sur les travaux qui ont été faits dans le cadre de des économies d'énergie sur l'hôtel de ville et la salle René Roussière. Ça a fait l'objet d'investissements qui avaient été programmés les années précédentes. Donc l'hypothétique baisse des prix du prix du kilowatt, c'est une chose. Hein, il faut de toute façon, je vous l'avais dit, hein, c'est quelque chose de réglementaire. Mais je pense que si on veut vraiment aller plus loin, et je vous l'accorde, c'est pas facile. Il faut aussi investir. Et il faut investir de façon à ce que ça soit vraiment significatif, quoi. Voilà.
Monsieur Arcusé.
Puisqu'on parle de consommation d'énergie, nous avions obtenu une reconnaissance nationale d'agenda 21 local avec un programme d'action, donc pluriannuel, et je ne vois rien lié justement au développement durable et aux actions de cet agenda 21. Donc que vous abandonnez la reconnaissance ?
Non, il n'y a pas tellement question de ça, non. C'est simplement, encore une fois, toujours la même remarque, que là, nous sommes dans un débat. Nous n'avons pas voulu alourdir ce débat avec trop de détails, et nous pourrons en reparler dans les différents postes budgétaires que nous aurons à étudier lors de l'étude du budget primitif, prévisionnel. Madame Thibault.
Oui, je reviens sur les charges de gestion courante, chapitre 65. J'observe à la lecture donc la subvention du CCAS qui est en baisse pratiquement de 2000 euros.
Donc il y a 1700.
Oui, 1700 euros. Je dis 2000. La subvention, il y a des raisons particulières pour cette baisse.
Alors, il ne faut pas confondre la subvention de la commune au CCAS.
Et le réaliser.
Et surtout le budget du CCAS.
Oui, c'est d'accord. Mais la subvention.
Le budget du CCAS qui, en réalité, va être en nette augmentation. Puisque ce budget du CCAS était en 2014 de 68 000 euros. Et vous verrez pour 2015, au vote du budget, que le CCAS aura un budget de 81 000 euros. Mm-hmm. Donc il y a une augmentation significative du budget du CCAS, des sommes qui vont être consacrés à l'aide sociale proprement dite. Comment est-ce que nous y sommes parvenus? Eh bien, tout simplement, comme l'a dit Monsieur Mengui, c'est pas toujours simple, mais c'est parce que nous avons fait un gros effort d'économie sur justement les charges de fonctionnement général du CCAS, et nous avons eu un excédent dans le fonctionnement du CCAS. En économisant ces charges, nous avons eu un excédent de 10 000 euros. Donc c'est 10 000 euros que nous avons économisés. Nous allons pouvoir les consacrer à l'augmentation de l'aide sociale qui va être distribuée par le CCAS.
D'accord.
Bon,
donc ça sera à corriger. Je vois la subvention aux associations. Donc vous dites se tiendront aux environs de 126 000 euros. Alors que vous aviez mis au budget provisionnel 2014, donc 131 218 euros. Donc non, on attend le compte administratif, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir, soit le budget prévisionnel 2014 était particulièrement gonflé, ou donc il y a une baisse donc des subventions aux associations.
Alors, en réalité, il n'y a pas de baisse des subventions, du niveau de subvention aux associations. Je crois qu'on est toujours à la même somme de 126 000 euros.
Oui, donc ça fait juste une augmentation à peu près par rapport à 2013 de 5 000 euros. Donc ce n'est pas les plus de 10 000 euros de subvention que vous aviez annoncé dans le journal du Camaret Magazine. Donc vous annonciez plus de 10 000 euros pour les associations pour 2014. Donc en fait, ça fait à peu près même pas 5 000 euros de plus. Voilà, non, c'est simplement les effets d'annonce au début donc de l'année dans le cadre du budget prévisionnel. C'est simplement pour souligner donc.
Non, mais alors, je vous réponds aussi que depuis, il y a de nouvelles associations qui se sont créées et qui se sont installées à Camaret, et comme nous les trouvons pertinentes, cela a augmenté un petit peu le volume de nos subventions.
Oui, mais d'accord. Et en budget prévisionnel, vous annonciez plus de 130 000 euros pour les associations.
C'est un budget prévisionnel.
Prévisionnel. Ben oui, mais voilà. Effectivement, on en revient comme les budgets prévisionnels, on les gonfle un peu et après on dit qu'on fait des économies. Donc je pense qu'il faut effectuer un budget prévisionnel sincère, comme il est d'habitude de pratiquer.
Écoutez, si le budget prévisionnel n'avait pas été sincère, vous savez que les règles de la comptabilité publique sont telles que nous aurions eu au minimum une remarque de la part du Trésor public, voire des services de l'État. Ce qui n'a pas été le cas.
Oui, je parle sincère pour les camarétois et les effets d'annonce.
Bien, oui.
Je ne sais pas monopoliser le.
Oui. Bah écoutez, la parole est libre. Usez de votre liberté. Je vous écoute. Nous vous écoutons.
Alors, on peut passer, si vous voulez, à la section investissement. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur la question du fonctionnement. Moi, j'ai deux observations à faire. Bon, alors, effectivement, vous annoncez l'aménagement de l'ancienne crèche pour y accueillir une extension de l'école maternelle Soleil Ado. Quid des associations qui aujourd'hui utilisent ces locaux? Où est-ce que vous envisagez d'aller les installer, en sachant qu'elles ne peuvent plus aller à la maison Bec? C'est-à-dire qu'elles vont retourner là où elles étaient avant à l'espace René Roussière, a priori. C'était une demande qui avait été faite. Non, elles vont plus à la maison Bec. C'était une demande qui avait été faite par les associations culturelles d'avoir un peu un espace dédié, on peut le dire comme ça, quoi. Voilà. Donc des investissements avaient été faits dans cette ancienne crèche par rapport à cette problématique-là. Donc vous aurez à régler ce problème-là. Vous allez régler un problème et en créer un autre. Alors peut-être pas la même hauteur, mais enfin, je pense que là il y a un petit souci.
Alors, ce que je voulais indiquer, c'est que l'aménagement de cette nouvelle classe ne va pas occuper totalement toute la superficie de l'ancienne crèche, ce qui fait qu'il y a des associations qui sont actuellement dans l'ancienne crèche qui vont pouvoir y rester. Et d'autre part, nous sommes en train de voir avec les autres, d'étudier d'autres sites, mais nous sommes en bonne voie. et nous pourrons très prochainement arriver à un accord là-dessus. En fait, il va être parfaitement possible de continuer à héberger les associations qui le souhaitent dans des locaux municipaux gratuitement, tout en réalisant cette classe qui nous apparaissait indispensable, ne serait-ce que pour le confort des élèves, des enseignants, des ATSEM, et puis aussi, encore une fois, pour faire des économies de fonctionnement, puisque, comme vous le n'ignorez pas, il nous fallait chaque année louer un Algeco, et cela coûtait aux contribuables la coquette somme de 10 000 euros. Donc c'est quand même une économie importante qui va être faite grâce à cet investissement.
Alors, vous parlez d'économie, je reviens un peu sur les questions de l'énergie. Vous savez que l'école maternelle, c'est un gouffre en termes de dépenses énergétiques. C'est un bâtiment qui est des années 70, qui est ce qu'on appelle vraiment c'est une passoire énergétique, quoi. Donc, et vous avez dans vos cartons, vous avez un dossier qui avait été préparé pour justement une réhabilitation de cette école maternelle avec un projet d'extension et des travaux donc d'isolation. Donc c'est dommage que vous n'ayez pas pris le temps de regarder. Alors,
c'est ce projet que vous n'avez pas mis en œuvre.
Mais pour cause. Ceci dit, voilà, parce que là, il y avait la possibilité d'avoir un projet de long terme, global, et avec, certes, important en termes de dépenses d'investissement, mais avec un niveau pérenne sur le long terme, et avec la possibilité d'avoir des subventions quand on atteint un niveau de performance énergétique, ce qui aurait amorti le coût pour la commune. Donc je trouve un peu dommage. Bon, alors je comprends l'urgence, ça fait quelques années que ça dure. Ceci dit, je crois que sur le long terme, je pense que ça aurait été intéressant de lancer ce...
Mais chers collègues, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que nous allons aménager une classe dans l'ancienne crèche que nous renonçons à tout investissement dans les locaux actuels de la maternelle.
Concernant l'aménagement de l'ancienne crèche, vous tenez compte de l'impact, je dirais, du plan de prévention des risques d'inondation sur ce site-là?
Absolument, bien. Absolument. Nous avons fait intervenir un géomètre expert qui a pu démontrer que cet aménagement était tout à fait conforme au PPRI qui est applicable sur la commune.
Avec une plateforme de refuge.
Voilà, tout à fait. Pas d'autres questions? Oui, je vous en prie.
Juste sur les travaux de la avenue Pasteur, là, il y a 75 000 euros de budgété pour les trottoirs. On en a parlé un peu en commission des finances. Est-ce que vous avez regardé la possibilité d'enfouir les réseaux, que ce soit électricité et France Télécom? Parce que là, franchement, d'abord, c'est un entrée de ville, c'est l'entrée du village, donc c'est quand même un peu l'image du village. Et je pense qu'il aurait été intéressant, avant de se lancer dans ces travaux-là, de prendre contact avec le syndicat d'électrification, France Télécom, pour essayer d'enfouir toute la partie qui va en gros du garage de l'Aurore jusqu'à l'entrée du chemin de Vaqueras. Donc je ne pense pas qu'avec 75 000 euros vous puissiez faire ça.
Alors, en ce qui concerne votre remarque, eh bien, cela a été fait. On a pris contact avec le syndicat pour pouvoir procéder à l'enfouissement des lignes. Voilà. Et donc nous aurons une entrée de ville qui ne ressemblera pas à celle de la route d'Orange, pour les raisons que vous connaissez en matière de bâtiments qui sont de véritables verrues. D'autres questions? D'autres questions? Écoutez, nous sommes dans le cadre d'un débat. Et on peut ne pas être d'accord sur tout et on peut faire les uns les autres certains griefs. Dans le domaine de la courtoisie. Mais on peut quand même de temps en temps s'envoyer quelques petites piques.
Oui, bon, ça va. Voilà. Allez.
Alors, comme vous le savez, ce rapport ne fait pas l'objet d'un vote, donc nous ne voterons pas. Il n'y a plus de remarques ou de questions. Eh bien, dans ce cas, je vais passer au rapport numéro 2. Travaux du tour de ville, phase finale. demande de subvention auprès du Conseil régional PACA au titre du programme d'aménagement solidaire. Vu la délibération numéro 60 de la communauté de communes Aigouvel en Provence du 2 octobre 2012 portant approbation du PASS et la convention de programmation subséquente, vu la délibération numéro 12-1317 de la région PACA en date du 29 octobre 2012 portant approbation de la convention de programmation du PASS, considérant les objectifs prioritaires du PASS à l'échelle du territoire intercommunal, premièrement, renforcer les centralités et l'attractivité des bourgs et villages. Deuxièmement, maîtriser l'étalement urbain et travailler sur la restructuration des extensions urbaines. Troisièmement, diversifier l'offre en logements et encourager la production de logements sociaux. Quatrièmement, préserver l'environnement naturel et les grandes unités de paysage, soutenir l'activité agricole, dont la viticulture. Considérant que ce partenariat permet d'apporter aux communes adhérentes des moyens techniques et financiers pour soutenir des projets d'aménagement durable conçus à l'échelle communautaire. Considérant que la commune a pour projet de finaliser le programme de réfection du tour de ville engagé depuis 2011, la municipalité a lancé une étude approfondie concernant la phase finale des travaux et les principes d'aménagement s'inscrivent dans une opération globale de requalification des espaces publics dans le centre. Les dernières tranches de travaux du tour de ville consisteront dans la reprise du réseau d'eau pluviale et de la voirie très dégradée sur le cours du Midi, le cours du Levant et le cours du Nord avec poursuite d'une zone 30 km/h pour sécuriser les déplacements doux, la création d'une circulation piétonne, excusez-moi, réglementaire, qui offrira aux personnes à mobilité réduite l'espace libre nécessaire à leur déplacement, le maintien de places de stationnement, l'aménagement de l'intersection Tour de Ville rue Marie Curie, l'implantation de végétaux en dehors des circulations piétonnes, l'éclairage approprié et réglementaire. Considérant que ce projet répond aux critères d'éligibilité du volet aménagement du PASS et qu'il a été inscrit en année 3 du programme par le comité de pilotage chargé de l'instruction des projets subventionnables, vu l'étude réalisée par le bureau d'études CAPRIM portant le montant estimatif des travaux pluriannuels à 510 907 € 10 hors taxes et hors réseau, voici le nouveau plan de prévisionnel de l'opération. Montant des travaux hors taxes, État, subvention pour travaux divers d'intérêt local, réserve parlementaire, 25 000 €. Conseil général de Vaucluse, contractualisation 2014, 74 800 €. Conseil général de Vaucluse, contractualisation 2015, 74 800 €. Conseil général de Vaucluse, amende de police 2015, 21 000 €. État, par intermédiaire de la DETR, 150 000 €. Région PACA, par intermédiaire du PAS, 102 181 €. Commune de Camaret, 63 126 €, 10 centimes. Le tout donc pour un montant des travaux de 510 907 € 10 centimes. Vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessous et que j'ai évoqué ci-dessus, et donc je ne répéterai pas, de solliciter auprès de la région PACA une subvention à hauteur de 20% du montant hors taxe des travaux, soit 102 180 € au titre du programme d'aménagement solidaire, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des questions? Eh bien, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous en remercie. Rapport numéro 3. Création d'un logement d'urgence et de deux logements à l'ancien centre médico-social. Demande de subvention auprès du Conseil régional PACA au titre du programme d'aménagement solidaire. Un petit instant que je retrouve mon dossier. Donc voilà. Vu la... Non, ça c'est le numéro Non, c'est ça. Non, c'est ça. Vu la délibération numéro 60 de la communauté de communes Aigouvaise en Provence du 2 octobre 2012 portant approbation du PASS et la convention de programmation subséquente. Vu la délibération numéro 12-1317 de la région PACA en date du 29 octobre 2012 portant approbation de la convention de programmation du PASS. Vu la délibération numéro 2014-102 du conseil municipal en date du 27 novembre 2014 considérant les objectifs prioritaires du programme d'action à l'échelle du territoire intercommunal. Donc, premièrement, renforcer les centralités et l'attractivité des bourgs et villages. Deuxièmement, maîtriser l'étalement urbain et travailler sur la restructuration des extensions urbaines. Troisièmement, diversifier l'offre en logement et encourager la production de logements accessibles aux foyers à revenus modestes. Quatrièmement, préserver l'environnement naturel et les grandes unités de paysage. Soutenir l'activité agricole, dont la viticulture. Considérant que ce partenariat permet d'apporter aux communes adhérentes des moyens techniques et financiers pour soutenir des projets d'aménagement durable conçus à l'échelle communautaire, en particulier pour ce qui a trait à la diversité de l'habitat. Considérant que la réhabilitation du bien communal est située un grand rue, c'est donc l'ancien centre médico-social, participe à la revitalisation du centre ancien et répond aux critères d'éligibilité du volet habitat de ce programme, notamment en faveur du droit au logement pour tous par la création de 2 logements communaux conventionnés avec l'État et accessibles aux foyers à revenus modestes, et la création d'un logement d'accueil d'urgence répondant à une demande locale de plus en plus pressante. Pour le logement d'accueil d'urgence, il s'agit de la réhabilitation de l'appartement situé au 1, au premier étage, d'une superficie d'environ 60 mètres carrés. Un appartement locatif d'une surface d'environ 50 mètres carrés sera réhabilité en rez-de-chaussée. Un second appartement d'une surface équivalente sera créé dans les actuels combles de l'immeuble après aménagement de la cage d'escalier existante. Considérant que ce projet répond aux critères d'éligibilité du volet habitat du PASS et qu'il a été inscrit en année 3 du programme par le comité de pilotage chargé de l'instruction des projets subventionnables, considérant que le montant hors taxe des travaux subventionnables par logement est plafonné à 60 000 euros et ouvre droit à une subvention de 30% plafonnée à 12 000 euros majorée des 3 000 euros en cas de performance énergétique du logement, soit 15 000 euros par logement. Vu la préétude estimant l'ensemble des travaux à 260 000 euros hors taxe pour l'ensemble de l'immeuble est répartie comme suit, appartement en rez-de-chaussée 70 000 euros, logement d'urgence qui est en R plus 1, 75 000 euros, et l'appartement qui est en R plus 2, 115 000 euros. Vu le plan de financement prévisionnel, alors montant des travaux 260 000 euros, commune de Camaret-sur-Aigue 215 000 euros, conseil régional PACA par l'intermédiaire du PASS 45 000 euros. Donc, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan prévisionnel de l'opération que je viens de vous indiquer, de solliciter auprès de la région PACA une subvention à hauteur de 45 000 euros pour la réalisation du projet au titre du PASS, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Eh bien, écoutez, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 4. Convention avec la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse concernant le dispositif carte temps libre, année 2015. Rapporteur Jean-Michel Marleau.
La commune de Camaret-sur-Aigue et la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse sont partenaires depuis plusieurs années autour du dispositif chèque loisirs. À compter du 1er janvier 2015, ce dispositif se dénommera carte temps libre. La carte temps libre a pour objet de permettre aux familles d'allocataires de conditions sociales modestes d'accéder à l'offre de loisirs de proximité sur la commune. Porté par des structures habilitées par la direction départementale de la cohésion sociale ou dont les interventions sont reconnues localement. La carte temps libre est une aide à la famille. Il s'agit d'un dispositif propre à la CAF de Vaucluse. Il est complémentaire au contrat enfance jeunesse nationale. La carte temps libre s'adresse aux enfants de plus de 3 ans et aux jeunes de moins de 18 ans. Le quotient familial des familles bénéficiaires est celui fixé par la CAF et reste inchangé par rapport à l'ancien dispositif chèque loisir. Les familles sont bénéficiaires d'une notification de droit unique par famille, sous forme de carte temps libre, en fonction de leur quotient familial, et le montant est valorisé pour chaque enfant. 136 euros pour un quotient familial compris entre 0 et 230 euros. 104 euros pour un quotient familial compris entre 231 et 305 euros. 72 euros pour un quotient familial compris entre 306 et 400 euros. Le dispositif carte temps libre met en œuvre le principe de la détermination d'une enveloppe financière éventuellement révisable annuellement et abondée à la hauteur de 50% par la commune et à la hauteur de 50% par la caisse d'allocation familiale en faveur des allocataires du régime général. L'enveloppe budgétaire s'élève à 2600 euros pour 2015. La commune de Camaret-sur-Aigle y participe à la hauteur de 50%, soit 1300 euros. Et la caisse d'allocation familiale de Vaucluse à la hauteur de 50%, soit 1300 euros. Vu l'avis de la commission d'enfance jeunesse réunie, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention carte temps libre 2015 pour une durée d'un an à dater du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. D'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention à tout document afféré à ce dossier.
Bien, y a-t-il des questions ?
Oui, Madame Thibault. Oui, la commission Enfance Jeunesse est réunie à quel moment ?
Elle va être réunie courant mars.
Ah oui, donc d'accord. C'est...
Y a-t-il d'autres questions ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 5. Tarif des droits de place. Rapporteur Hervé Auriac.
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L2125-3, qui pose comme principe la non-gratuité de l'autorisation d'occupation du domaine public, vu délibération 2013, délib 059 du 4 juillet 2013, relative à l'institution de droits de place, considérant la nécessité de réviser les tarifs des droits de place dans le cadre de l'occupation temporaire du domaine public, il est proposé de modifier les tarifs des droits de place en instituant les tarifs suivants. 8 euros par jour et par installation autorisée pour les commerces ambulants, notamment les camions de pizza ou autres. 40 euros par jour et par installation pour les cirques, manèges et camions ou vente au déballage. Le règlement des redevances sera acquitté lors de la délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire par la régie de recettes, droit de place ou à défaut par l'émission d'un titre de recettes. Il est précisé que la délibération 2014, délib 075 du 18 septembre 2014, modifiant les tarifs du marché communal hebdomadaire et les délibérations du 27 mai 2003, numéro 2009-97, du 27 août 2009, instituant les droits de place pour la fête foraine, restent inchangés. Il est demandé au conseil municipal d'instituer une redevance de 8 euros par jour et par installation autorisée sur une dépendance du domaine public pour les commerces ambulants, tels que les camions de pizza ou autres. D'instituer une redevance de 40 euros par jour et par installation autorisée sur une dépendance du domaine public pour les cirques, manèges et autres camions ou ventes au déballage. De dire que les tarifs relatifs au marché hebdomadaire et aux emplacements de la fête foraine restent inchangés.
Y a-t-il des questions ? Monsieur Mengui.
On passe de...
Oui, c'est ça, oui. Alors, je passe au... Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je reprocède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie.
Donc, je rappelais à mon collègue que c'était, on passait pas le système métrique. C'est un forfait que nous avions mis en place, que vous avez révisé.
Nous avons révisé les tarifs.
Parce que ça ne change pas le prix pour les marchés hebdomadaires.
Ah non, absolument pas, tout à fait.
C'est un forfait que nous avions mis en place pour les camions pizza et les forains. Voilà.
Alors, rapport numéro 6. Mise à jour du tableau de classement des voiries communales, rapporteur Hervé Auriac.
L'article L141-3 du Code de la voirie routière fixe la compétence du conseil municipal pour le classement et le déclassement des voies communales. Suite à la mission de diagnostic confiée au cabinet Bétard, portant sur la mise à jour du tableau de classement des voies communales approuvé lors de la délibération du 11 octobre 63 et complété lors de la délibération du 8 décembre 98, du 27 juin 2005 et enfin du 22 janvier 2015 par le conseil municipal, vu l'ordonnance numéro 59-115 du 7 janvier 59 relative à la voirie des collectivités locales, vu la loi 89-413 du 22 juin 89 relative au code de la voirie routière, vu le code de la voirie routière, notamment l'article L141-3, vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2131-2, il est demandé au conseil municipal d'incorporer dans le domaine public communal les parcelles suivantes. AW153, représentant la rue du Planet, AW198, la rue du Patiol, AZ302, allée Louis-Joseph Gay-Lussac. D'approuver le classement dans la voirie communale dite urbaine, les voies communales suivantes, rue du Planet, rue du Patiol, allée Louis-Joseph Gay-Lussac. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce document. Vous avez l'emplacement sur le schéma.
Merci. Y a-t-il des questions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Y a-t-il des questions diverses? Alors, il n'y a pas de questions diverses. Je vous indique la date du prochain conseil municipal. Le 30 mars. Exceptionnellement, donc, ce ne sera pas un jeudi, ce sera un lundi. Mais l'affaire est d'importance puisqu'il s'agit de voter le budget.
19h.
Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.